Donc, merci d'être là pour le début de ce 58e festival d'Avignon. On avait assez de trac au mois de février quand on a présenté le programme. Là, ça commence ce soir et le trac est encore plus grand. Et entre-temps, on a vu beaucoup des répétitions, des spectacles qui se sont créés récemment. On est très confiants et très heureux de l'aventure qui commence aujourd'hui. Donc comme il est écrit derrière vous, pour nous c'est juste le début. Donc aujourd'hui nous réouvrons le festival, c'est la 58e édition, après l'absence de la 57e. L'absence de la 57e édition du festival, qui était tout à fait douloureuse pour les artistes, pour les équipes, pour le public, a reposé la question de la nécessité du Festival d'Avignon, la nécessité du spectacle vivant dans notre pays. Et je crois que cette question a été un véritable moteur pour nous, pour toute l'équipe, pour préparer ce 58e festival. Donc, ça fait un an qu'on travaille pour reconstruire le festival et pour inventer notre festival. Ça fait un an qu'on travaille avec une équipe formidable, des permanents, des gens qui petit à petit, des personnes qui nous ont rejoints petit à petit, pour faire grossir l'équipe. On sera bientôt 600. On a travaillé avec un artiste associé, donc une première, c'est notre façon de travailler, à deux, François et moi. Et en collaboration, en complicité avec un artiste qui chaque année va donner une couleur, va définir un territoire, va donner une âme au festival. Donc ça fait un an qu'on travaille avec Thomas Ostermayer, directeur de la Charlotte du Lieu à Berlin. Et ça a été une aventure aussi pour nous très très forte, extrêmement enrichissante, et qui nous a fait, je crois, aller plus loin. Et on a travaillé aussi depuis un an avec 24 compagnies, 24 équipes artistiques, qui vont faire ce festival, c'est le festival C'est de l'œuvre, et on a travaillé beaucoup aussi dans l'échange, dans le dialogue, dans la rencontre avec eux, pour préparer leur projet, mais pour réfléchir aussi avec nous sur le festival d'Avignon. Ce festival, on l'a souhaité tout d'abord vivant. On parle du théâtre, on parle des arts de la scène comme un art vivant, et je crois que notre souhait, c'est que le festival d'Avignon soit un festival le plus vivant possible. Vivant, ça veut dire avec des artistes d'aujourd'hui, qui parlent d'aujourd'hui, avec des spectateurs d'aujourd'hui. Un art qui soit ouvert à toutes les formes, qui soit nourri du monde, nourri de la vie des uns et des autres. Et que c'est chaque artiste vient proposer sur le plateau sa vision du monde, son univers, et vient le partager avec le public. Cette chose si rare que seul le théâtre, que seul les arts de la scène proposent, c'est ça notre moteur et c'est ça qu'on a envie de faire vivre au Festival d'Avignon. Le festival, on a voulu aussi le plus ouvert possible. Ouvert à toutes les formes des arts de la scène. Comme je le disais, le théâtre est un art vivant, donc il vit, donc il est au contact du monde, au contact des autres formes, au contact des autres arts. Donc, on a effacé dans l'introduction du programme les catégories théâtre, danse, musique. Parce que les artistes d'aujourd'hui, les artistes que l'on a invités cette année au Festival d'Avignon sont de véritables artistes, des arts de la scène. Ils viennent créer leur propre univers avec tout ce corps, tous les langages possibles sur un plateau pour les présenter au public. On l'a voulu aussi ouvert à les artistes de toutes les générations, de toutes les origines. Donc de Cyril Test, un jeune metteur en scène de Carpentras, à Bernard Sauvel. Que toutes les générations sont présentes au festival. À toutes les origines aussi, puisqu'on a voulu ancrer le festival dans l'espace européen. Cet espace est le nôtre. C'est pour ça, symboliquement, on trouvait important d'ouvrir comme premier artiste associé un artiste européen, un artiste allemand. Je crois que c'est dans cet espace que nous vivons. Et le festival d'Avignon a pour mission d'être un des grands festivals en Europe aujourd'hui. Mais certains m'ont dit, mais il y a beaucoup d'artistes étrangers, ce festival n'est fait que pour les étrangers. Alors je vous rassure, parce que tout le monde n'a pas bien lu le programme, plus de la moitié des équipes sont des équipes françaises. Et il y a seulement 9 spectacles sous-titrés, 9 spectacles joués en langue originale sur 51. Donc on a moins d'écrans de sous-titrage en 1999, on a moins d'écrans de sous-titrage en 2002, donc ne vous inquiétez pas. Et pour nous, le choix par exemple de présenter un spectacle en allemand dans la cour d'honneur, certains me disent mais ça va être difficile, on va rien comprendre. Je crois qu'au contraire, c'est un véritable cadeau qu'on fait aux spectateurs. Et peut-être que les spectateurs n'auraient pas eu l'envie d'aller voir un spectacle en langue originale, mais comme c'est dans la cour, ils vont quand même y aller, ils vont découvrir que c'est formidable, pas de sur-titrage, enfin rien de formidable, mais de découvrir des artistes qui font du théâtre un peu d'une autre manière, des acteurs allemands, si physiques, si généreux. Le théâtre de Thomas Ostermayer, qui est le sien, qui ne ressemble pas à celui qu'on voit ici habituellement. Je crois que c'est un véritable cadeau. On a fait l'effort d'aller jusqu'à Berlin, de la rencontrer, de les faire venir, de trouver des financements pour les faire venir, de vous traduire les pièces. Et si le sous-titrage est bien fait, au bout de quelques minutes, comme quand vous allez voir un spectacle au cinéma en langue originale, vous allez oublier que c'est en sous-titrage, vous allez être emporté par la foule et la générosité des acteurs. C'est un festival qu'on a souhaité ouvert au plus large public possible. Je crois qu'on a beaucoup réfléchi à cette idée qui est un petit peu à l'origine du festival, de faire un festival populaire, un festival ouvert à tous, un festival d'été, où tout le monde est décontracté, tout le monde vient un peu de toutes les origines, géographiques, sociales. Je crois que le festival que l'on propose est extrêmement ouvert et accessible. Effectivement, tous les noms ne sont pas très connus du grand public. Quand je parle de Johan Simon de la compagnie Hollandia qui n'est jamais venu en France, le monde me dit mais c'est qui ? C'est un jeune metteur en scène. Non, Johan Simon est un des plus grands metteurs en scène européens. Il a plus de 50 ans, il y a une compagnie qui travaille depuis 20 ans en Hollande et il est en Allemagne, en Europe du Nord, considéré comme un des plus grands metteurs en scène. Donc on a envie de faire des concerts. Mais son théâtre, lui, est totalement accessible. C'est du vrai théâtre, il y a des personnages, des acteurs très généreux. L'adaptation qu'il a fait des années Visconti est une grande fête du théâtre et elle peut toucher tout le monde. Donc l'esprit qui anime ce festival, c'est une aventure pour les artistes, mais c'est aussi une aventure pour le public. De venir jusqu'ici, d'être dans l'état d'éveil, de curiosité, pour aller découvrir des artistes, découvrir des artistes, forcément ils ne connaissent pas, mais ici, à Avignon, peut-être on peut prendre le risque de se faire bouleverser, de se faire toucher par la parole d'un artiste. Et c'est un petit peu l'objet de ce festival, un festival de découverte, mais qui ne peut pas être inaccessible. Et on m'a dit, oui, on m'a dit aussi, il n'y a pas de stars. Alors, je suis très surpris, parce que ce festival est bourré de stars, il est bourré d'immenses acteurs de théâtre. Alors, ils ne font pas tous du cinéma, mais je vous jure que sur un plateau, ce sont des véritables étoiles, ce sont des véritables stars, des étoiles qui ne pourront pas parler de la concurrence des étoiles qui sont dans le ciel de Provence. Je pense à Éric Elmoslino, qui fait Bergune, je pense à Laurent Poitrenaud, qui accompagne Dominique Lagarde et Olivier Cadio dans cette immense aventure de la chanteuse de Villeneuve d'Avignon avec 3 spectacles. Je pense à Denis Lavant, qui joue Un homme et un homme avec Bernard Sobel. Mais je pense aussi à Bruno Cadomas, qui interprète Voicek avec Thomas Ostermayer. À Anne Kirchmer, qui fait 2 spectacles avec Thomas Ostermayer. Anne Kirchmer, qui vient de recevoir le prix de la meilleure actrice allemande. Quand vous connaissez le niveau d'acteur allemand, vous pouvez imaginer la force d'Anne Kirchmer, où je pense à Jérôme Guillem, l'acteur de la troupe de Hollandia, qui lui aussi vient de recevoir le prix du meilleur acteur hollandais, qui fait le cadeau aux spectateurs d'Avignon de jouer en français un spectacle de 2 voix, qui sera joué au Pénitent Blanc, et c'est aussi un des acteurs principaux de la chute des dieux et de l'adaptation des derniers. Le festival, on l'a voulu ouvert sur son territoire. Ouvert sur Avignon, sur sa région. Le premier site, c'était de s'installer ici. Depuis un an, nous travaillons ici, nous dirigeons le festival à Avignon. C'était aussi ouvert sur le public local et régional. Tous les mois, depuis le mois de janvier, nous avons fait un rendez-vous avec le public, avec les curieux du festival, comme on les appelle, pour présenter les artistes qui vont faire le festival d'Avignon 2004. Cette présence à Avignon nous a permis de nous rapprocher de ceux qui travaillent aussi au service public de la culture, qui travaillent aussi pour accompagner les artistes, ici sur le territoire d'Avignon. Je pense évidemment à la Chartreuse, à la Maison Jean Villain, mais aussi au cinéma Utopia, ou au Cycle d'Or. En tout cas, ça nous a rapprochés de tous ces partenaires qui travaillent ici toute l'année, et ce qui nous a permis d'aller plus loin dans notre collaboration avec eux. Cette ouverture sur le territoire d'Avignon, on a voulu aussi la signifier dans notre programme, notamment avec les deux artistes, les deux équipes artistiques qui sont à côté de nous, Complexe Capharnaüm, qui va ouvrir le festival ce soir dans les rues d'Avignon, et Julien Rosefeld, qui est une équipe à lui tout seul. Julien Rosefeld, qui est plasticien, vidéaste, cinéaste, et qui va présenter deux installations au Festival d'Avignon, dont une est derrière nous. Dans le complexe Capharnaüm, avant de leur laisser la parole, je voulais vous dire pourquoi j'avais très envie qu'ils nous accompagnent dans cette édition. D'abord parce que, comme tous les autres artistes qui composent cette 58e édition, ce sont de véritables artistes. C'est-à-dire qu'ils ont, depuis des années, peu à peu, développé un véritable langage, un langage singulier, leur façon d'écrire le monde à travers leur travail, nourri d'images, de vidéos, nourri de rencontres avec des êtres humains, dans les quartiers dans lesquels ils font un spectacle. Et je crois que c'est le signe commun de tous les artistes qui participent à cette édition. Une des couleurs du festival, inspiré par les questions que m'ont posé Thomas Ostermayer, c'est comment un patron artistique peut parler du monde, comment un artiste peut s'exprimer avec un souci du monde. Je crois qu'à leur manière, poétique et sensible, ils répondent aussi à cette question très fortement, et leur place à l'ouverture du festival me semble juste et nécessaire. Et en plus, de par leur travail, je trouvais que c'était une formidable façon d'ouvrir, ou plutôt de réouvrir le Festival d'Avignon en donnant la parole, comme ils le font dans leur spectacle, aux habitants d'Avignon, aux habitants de la cité de Migros et de tous les quartiers qu'ils vont traverser avec leur spectacle. C'était un petit peu un cadeau que le festival faisait aux Avignonnais. Les Avignonnais nous donnent les clés de la ville, ou donnent les clés de la ville aux dieux du théâtre, donnent les clés de la ville à tous les passionnés des arts de la scène, de France et d'Europe. Et je crois que c'était un beau cadeau d'ouvrir le festival en leur donnant la parole dans ce spectacle gratuit dans les rues au tout début du mois de juillet. Donc je vais leur passer la parole à Pierre Dufourreau et Stéphane Bonnard pour qu'ils présentent leur projet.
Bonjour. Donc, le spectacle composeur, ça s'appelle Soit télé sur le théâtre de rue. On va tenter de détourner un peu la ville. On propose un parcours, une balade, une errance à travers les rues de la ville. On propose un détournement de cette ville, on propose d'essayer de la retourner, de la mettre à l'envers et d'en offrir une autre vision, un autre regard, qui est le nôtre, le regard d'une équipe artistique éminemment subjective. C'est une lecture qu'on veut poétique, sensible, parfois un poil poétique. C'est une lecture qui se compose de tout un vocabulaire qui est le vocabulaire de la ville, qui est d'aller chercher dans les entrailles de la ville tout ce qui constitue la ville, participe à la création de nos spectacles. C'est l'architecture, c'est comment la ville est organisée. C'est un spectacle qui se déroule sous forme de projection d'images sur les façades. Et puis c'est les habitants, c'est la matière première de la ville, c'est aussi les habitants. Et on possède donc une collection d'images qu'on va chercher un peu partout dans les quatre coins de la ville, qu'on ramasse des témoignages qu'on prend un peu partout, dans la rue, dans les cafés, dans les halls d'immeubles, dans les associations. Et tout ça, c'est la matière première qu'on malaxe après pour constituer notre spectacle, qui est donc un déambulatoire où on redétourne, on transforme un peu les façades, l'architecture, à partir de toutes ces images et de tous ces témoignages qu'on a récupérés. Voilà un peu le château, le principe global de notre intervention.
Je crois qu'on est assez étonnés et très contents d'être ici aujourd'hui. En fait, on est très heureux en fait, de participer au festival pour aussi affirmer, je crois, conjointement avec l'équipe du festival, cette envie et cette volonté à un moment donné d'avoir une proposition artistique alternative de aussi revendiquer le fait que jouer dans l'espace public, il n'y a pas que des animations, des défilés, etc. Et qu'il y a un vrai propos qui peut être porté dans la rue, qui peut être porté avec la ville, avec ses habitants. Et que c'est un travail aussi qu'il faut bien entendre dans la durée. On a mené cette aventure depuis bientôt 6 mois, même presque plus, 1 an ici sur Avignon. On n'est pas resté 1 an ici, on est venu assez régulièrement, mais en tout, on a pratiquement passé 2 mois et demi sur Avignon à faire des interviews, à faire des rencontres, à faire des petites diffusions intermédiaires. Et c'est cette circulation de la parole, c'est cet aller-retour entre la ville et une écriture, et c'est cette prise de parole dans l'espace public qui nous intéresse et qu'on a envie de revendiquer comme étant un acte artistique à part entière et comme étant aussi une ouverture dans l'avenir sur d'autres formes d'expression, sur le spectacle vivant, il est sur scène, il est aussi dans cet espace, et c'est à nous, équipe artistique, donc chacun défriche son territoire, et il est important aussi pour nous aujourd'hui de défricher celui-là et d'essayer de profiter de cette ouverture et des clés de la ville qui nous sont données à un moment pour essayer de faire partager aussi à un public différent, un public plus large qui n'est pas forcément celui qui a l'habitude d'aller dans les lieux consacrés pour le spectacle, et cette envie à un moment donné d'avoir ces échanges et de partager aussi des moments de spectacle, des moments de rêve, de poésie, mais aussi de revendication dans l'espace public. Et je crois que c'est un des points forts et une des choses qui nous motive beaucoup dans notre travail que nous faisons. Et voilà, et puis simplement, affirmer aussi que le travail que l'on a mené ici sur Avignon, on a notre histoire, mais on a aussi la chance et la joie d'avoir pu échanger et d'avoir quelques moments de publicité avec beaucoup de personnes dans Avignon. On a rencontré énormément de personnes, des gens qui sont présents ici et puis beaucoup d'autres. Il ne faut pas focaliser sur une dimension de quartier, sur le travail qui a été mené. Effectivement, il y a eu des tournages et des rencontres qui ont été faits cité Louis Brault, il y a des tournages qui ont été faits à Montclair, il y a des tournages qui ont été faits un peu partout dans la ville. Donc on a aussi énormément travaillé sur le centre-ville. Le travail que l'on mène, il se fait dans la rue, dans des espaces publics, c'est aussi en lien avec des associations, en lien avec des écoles. Et à un moment donné, c'est tisser tout ce réseau, c'est mailler toutes ces rencontres. Et c'est ça qui est le moteur aussi de la proposition qu'on fait. Et la partie qu'on va découvrir ce soir, demain soir et lundi, c'est vraiment la partie immergée d'un travail qui a été mené pendant 6 mois. Et je crois que nous, ce qui nous importe aussi dans la proposition Square Télévision Locale de Rue, c'est tout ce parcours, tout ce trajet et toutes ces rencontres qui sont faites, tous ces questionnements aussi sur l'organisation d'un spectacle dans la rue. Il faut couper la circulation, ça provoque des nuisances, il faut éteindre l'éclairage public, il faut accéder dans des espaces qui ne sont pas forcément prévus pour, une cité administrative, une cour d'immeuble, etc. Mais tout ça participe à un questionnement sur une proposition artistique dans la ville, comment elle peut vivre, comment elle peut exister, et tout ça provoque aussi beaucoup de choses. Donc le spectacle qui va être proposé ce soir, c'est vraiment le fruit et l'aboutissement de tout ce parcours qui a été qui s'est bien passé. Voilà.
Allô ? Donc Square Télévision Locale de Rue, ce soir, demain soir et après-demain soir, 3, 4 et 5 juillet, 22h15. Le départ du parcours était à la cité, dans le square de la cité de Bureau, et le parcours dure environ 1 heure et demie.
Un petit peu plus,
un kilomètre plus. Il y a 1,5 km.
Oui, voilà, c'est tranquille, on avance tranquillement, et puis c'est une promenade agréable qui nous ramène jusqu'à la ville ici, c'est très
spécifique. Et on insiste, le spectacle est un spectacle construit avec sa propre dramaturgie, il est très important de partir du début pour se créer la tentation de rejoindre le parc Laurent. Un autre artiste interroge aussi l'espace urbain, notre territoire, de deux manières. C'est donc Julian Rosenfeld, plasticien, vidéaste allemand de Berlin. C'est Thomas Ostermayer qui me l'a présenté. Il a collaboré deux fois avec Thomas Ostermayer, où il a fait des vidéos pour ses spectacles. Il a aussi participé à l'exposition au Centre Pompidou, dans le plus grand musée européen. On a invité avec deux installations. La première, c'est Asylum, une installation cinématographique dans l'église des Célestins, où il interroge un peu l'étrange situation des étrangers dans notre société à travers une installation cinématographique baroque, plastique, très étrange, très poétique, donc à partir d'aujourd'hui dans l'église des Célestins. Et il est présent aussi sur le territoire du festival par une installation dans l'ensemble de l'espace urbain d'Avignon avec des grandes phrases lumineuses, rouges, comme des enseignes, qui vont poser des questions aux passants, aux visiteurs, aux spectateurs d'Avignon, des questions sur notre ville, toujours en résonance avec les bâtiments qui sont derrière, sur notre monde, sur notre Europe. Voilà. Donc ces grandes phrases lumineuses qui vous posent en question sont signées Julian Rosenfeld.
Merci pour l'invitation au festival. Je vais essayer de parler en français, même si mon vocabulaire est petit. Tu as déjà expliqué tout. Il y a une installation cinématographique dans l'église de Célestin qui s'appelle Asylum, que j'ai réalisée en 2001-2002. Avec le soutien de 120 demandeurs d'asile politique en Allemagne, qui viennent de tout le monde, en fait. Ça interroge tout d'abord, évidemment, la situation de l'étranger, de l'immigrant en Allemagne, en Europe. Mais de l'autre côté, ça interroge aussi notre manière d'idéaliser ou exotiser l'étranger quand nous voyageons dans les pays d'où viennent toutes ces personnes. C'est tout à fait aussi une réponse à la manière dans laquelle on parle sur le thème de la migration boliviane. J'ai observé avec beaucoup d'autres qu'il y a un langage très, très formel, c'est-à-dire avec un sous-texte qui est tout à fait critique. Le vocabulaire, les images, c'est toujours le même. On voit des images qui sont complètement chargées négativement. Et je voulais proposer une réponse visuelle à cette image qu'on s'est déjà faite dans les médias de la situation des immigrants en Europe. C'est-à-dire que ce que vous allez voir là, c'est tout un mensonge, c'est pas du tout vrai. Ce sont 9 écrans avec 9 histoires, 9 petites loupes ou clés, des rituels qui sont inspirés des rituels que nous observons dans les pays exotiques quand nous voyageons, qui n'ont rien à faire avec la réalité.
Un autre projet, c'est Bastion Europe.
Voilà, Bastion Europe, c'est l'origine du projet de l'invitation de Thomas. Il semble important, c'est Vincent, qui m'a demandé de réaliser un projet dans l'espace urbain, dans l'Union. Avec l'intention de transporter le festival encore plus dans l'espace urbain. Le discours qu'on a eu était un festival, c'est quand même aussi un lieu fermé, si on veut, c'est ouvert à tout le monde. On discute de la misère du monde globalisé entre nous, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord déjà. Ça s'adresse plutôt aux habitants de l'Union qui participent au festival, qui veulent aussi un peu savoir ce qui se passe dans les contextes du festival. d'une manière très ouverte, c'est-à-dire ce sont des questions qui rejettent le coup d'œil qu'un visitant de la ville porte avec soi à lieu de grands spectacles comme le Festival de Lyon. C'est comme la ville elle-même elle rejette ces questions, elle rejette cette expectation, elle pose des questions aux spectateurs. Il y a plusieurs idées qui mènent au contenu des textes. Il y a aussi le phénomène qu'il y a pour le premier festival sur la direction de Hortense sur l'instant, il y a un artiste associé qui vient d'Allemagne. Et c'est peut-être pas par hasard, dans un temps où on parle de la vieille Europe, de l'amitié aussi politique, sur une mobilité entre la France et l'Allemagne. Donc on a essayé un peu de thématiser ça aussi, en citer des phrases que vous avez trouvées dans les livres que vous connaissez, peut-être. Voilà.
Donc, effectivement, ce projet répondait aussi à une question pour nous. Comment signifier dans l'espace urbain que pendant 3 semaines, à Avignon, il y avait une grande aventure artistique. On voulait le signifier pas par des grands écrans, des grandes bandes publicitaires, mais comme on l'a fait pour le programme, comme on l'a fait pour l'avant-programme, toujours parler à travers une forme artistique. Donc là, dans cet espace urbain, cette forme artistique a été trouvée par Julien de Rosefeld. Mais c'est pour effectivement signifier aux visiteurs d'Avignon, ici, il se passe quelque chose, on se pose des questions à travers des paroles artistiques. Donc il y aura beaucoup de spectacles, et aussi, à chaque fois, on a essayé de donner de l'espace, du temps, à chaque qui participe pour déployer leur travail, déployer leur œuvre. On voit qu'une des choses particulières dans le comportement des festivaliers, quand ils sont avec nous, ils sont extrêmement disponibles, extrêmement curieux, et pour flatter cette curiosité, on a voulu. Et pour offrir cette curiosité aux artistes que l'on invite, on a essayé toujours de proposer plusieurs fenêtres, plusieurs portes pour entrer dans l'œuvre des artistes à travers la création ou le spectacle, qui est un peu le rendez-vous et l'événement pour l'équipe artistique invitée, et aussi, quand c'était possible, de faire plusieurs choses pour présenter leur travail. Donc ça s'est fait sous forme soit d'autres spectacles, soit de lecture, soit d'installation, soit par invitation d'artistes complices, par exemple Olivier Gallio a invité René Le Bourget pour un concert dans la cour d'honneur le 27 juillet, ou Pico Del Bono qui a invité Giovanni Marini à faire un concert le 18 juillet à Carrière-Boulmeau. Mais c'est aussi à travers une programmation cinéma, sur des films et documentaires sur les artistes ou des artistes invités, ou des films qu'ils ont choisi de présenter au public d'Utopia. Toutes ces manifestations, ces lectures, accompagnées de toutes les rencontres et des débats, sont récapitulées dans un petit document qui est disponible depuis aujourd'hui, qui tient dans la poche, pas comme notre programme qui tenait seulement dans les grands sacs. Donc ce petit document s'appelle le guide du spectateur, récapitule jour par jour l'ensemble des manifestations proposées autour des spectacles. Donc ça va bien aux conférences de presse publiques, aux projections du cinéma Utopia, aux lectures. Il comprend aussi tous les débats, toutes les rencontres que l'on va organiser pour, autour ou à partir des paroles artistiques, essayer de réfléchir aussi sur le monde et aussi sur la situation du spectacle vivant aujourd'hui, sur les politiques culturelles de la France et de l'Europe aujourd'hui. Donc ce festival, on le veut aussi que ce soit un grand rassemblement de paroles, de discussions, pour comprendre le monde et comprendre et essayer de faire avancer la culture et le spectacle vivant en France. En écho aux questions des spectacles, on propose un cycle de débat intitulé « Le théâtre des idées » qui sera comme 8 conférences-débats au gymnase Saint-Joseph. En écho aux artistes, poseront des questions sur l'Europe, sur le monde d'aujourd'hui. Le premier débat sera avec Jacques Derrida, le 9 juillet au gymnase Saint-Joseph à 15h, et qui a pour titre « La vieille Europe et la nôtre ». On se posera des questions aussi sur l'Europe, l'élargissement à l'Est, le rapport Orient-Occident, sur le travail, sur la jeunesse, sur l'engagement. Voilà, c'est tout un cycle de débats et de réflexions autour des spectacles. En plus de ces débats, on veut aussi qu'il y ait du monde dans notre rassemblement professionnel, et ici à Saint-Louis, donc le matin sera réservé aux rencontres avec les artistes, ici et aussi dans la cour du lycée Saint-Joseph avec les SMEA. Et l'après-midi, on fera le port de Saint-Louis sera le lieu des rencontres professionnelles et débats, avec en co-réalisation avec des syndicats professionnels, des organismes, des éditeurs, et un ensemble de personnes avec qui on a voulu discuter de la situation du spectacle vivant aujourd'hui. Tout est récapitulé dans le guide du spectateur.
Merci beaucoup, Julien, merci beaucoup, l'équipe du complexe Capharnaüm. Je vais demander à Jérôme Tisserand et à Jean-Paul Tremblay pour parler et dire quelques mots de la situation sociale dans laquelle, effectivement, le contexte dans lequel se déroulera ce festival. Vincent, vous avez dit tout à l'heure que l'équipe était formidable. On a envie de la remercier ici. Effectivement, l'équipe travaille énormément depuis un an et encore beaucoup plus ces dernières semaines pour monter un festival qui est effectivement assez imposant et qui démarre très fort avec des projets importants, des décors importants. Et vraiment, qu'elle en soit ici, merci. Comme je le disais, le festival a été préparé par un très grand enthousiasme par l'ensemble des équipes qui ont tout envie qu'il se déroule. Nous en avons un sentiment profond. Cependant, ces équipes, qu'elles soient ou non constituées d'intermittents, comme on dit, restent mobilisées pour obtenir un régime d'assurance chômage et d'accès au métier. En effet, nous le répétons, le protocole signé le 26 juin 2003 est inadapté à nos métiers. Il est nocif dans la mesure où il précarise les artistes et techniciens du spectacle et fragilise l'économie de la création. Les voix qui constatent cela sont de plus en plus nombreuses. Les perspectives de trouver des conditions de négociation pour une nouvelle réforme plus juste avec toutes les personnes concernées semblent s'offrir à nous. Nous nous en réjouissons et restons attentifs à la concrétisation des engagements qu'a pris le ministre de la Culture, M. Donadieu de Vabre. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui montrent combien l'intermittence est le mode de travail de la plupart des gens qui font un festival. Pour offrir au public ces moments d'émotion que j'espère vous partager, 1260 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation, ont mis leur effort pendant plusieurs mois. Parmi eux, 590 personnes sont directement salariées par le festival, 20 personnes permanentes, 286 salariés en contrat à durée déterminée, 284 techniciens qui relèvent du régime intermittent du spectacle. Parmi les compagnies françaises invitées, 279 artistes et techniciens relèvent également de ce régime. Donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, autour des paroles artistiques et des spectacles, nous avons souhaité, ce qui nous semble absolument nécessaire, qu'Avignon puisse être un endroit de rassemblement de l'ensemble des parties prenantes du spectacle vivant en France, à savoir les artistes, les professionnels, le public, les médias, les politiques, pour qu'on puisse continuer de construire et d'avancer pour effectivement aboutir à ce que nous souhaitons tous et ce qui est l'objectif qui est partagé, c'est-à-dire un régime qui soit adapté. Des artistes du festival ont rédigé un texte qui a été approuvé par la plupart des compagnies que nous avons invité cette année. Nous avons demandé à une des stars du festival, Marie Patronneau, qui a bien voulu venir nous en donner lecture. Merci.
Je précise que quand on dit que ça a été signé par la plupart des équipes, c'est aussi bien françaises et étrangères. Nous, artistes invités du Festival d'Avignon 2004 et nos équipes, voulons affirmer notre attachement à la mission publique au service de l'art et de la création. Nous continuons à penser que la politique culturelle de l'État doit protéger des lois du marché nos pratiques spécifiques. La question de l'intermittence doit être traitée en fonction d'objectifs artistiques et culturels. Elle dépasse le point de vue purement économique des partenaires sociaux. Elle engage l'avenir artistique et intellectuel de la France. La réforme de l'intermittence signée le 26 juin 2003 est injuste parce qu'elle élimine sans discernement une partie d'entre nous et perverse parce qu'elle tente de nous dresser les uns contre les autres. Le mouvement des intermittents a mûri, il a fait des propositions responsables, nous les soutenons. Cette lutte est notre lutte dans la mesure où elle se réclame de l'héritage dont nous sommes les dépositaires, celui des artistes singuliers qui ont fait l'histoire du théâtre et de tous les arts vivants, et non de la bonne marche de l'industrie culturelle. Je précise que ce texte circule depuis hier soir parmi l'ensemble des salariés du festival. Et ce matin, une centaine d'entre eux ont déjà signifié qu'ils s'associaient pleinement à cette parole des compagnies. Merci.
Nous avons aussi souhaité donner la parole à Jean Tisseron, qui représente ici aujourd'hui la coordination nationale des intermittents et précaires.
Bonjour. Jérôme, je ne suis pas une barrière d'ajustement. 3 juillet 2004, donc le protocole du 26 juin 2003 est toujours en application. Nous sommes en Avignon. Rien n'est réglé sur le fond. Il faut préciser qu'un processus est engagé, un certain nombre de mesures d'urgence sont en cours, ce n'est pas la totalité des mesures d'urgence qui a été demandée, le rétablissement des congés maternité, ce qui était quand même la moindre des choses, sachant que la spécificité de l'intermittence est donc d'alterner période d'emploi et période de chômage, et dans le protocole du 26 juin, lorsqu'on était en période de chômage, on ne pouvait pas avoir un congé maternité. Il en est de même pour les congés maladie qui ne sont toujours pas réglés. Maintenant, deuxième chose, une question pour laquelle nous redoublons de vigilance, c'est donc dans ces mesures d'urgence, un fonds spécial est affecté pour retoquer, recalculer ceux qui n'auraient pas fait 507 heures en 11 mois, donc le durcissement des conditions d'accès, pour voir s'ils les ont faites en 12 mois. Donc, ces mesures, je demande de redoubler de vigilance, dans le sens que depuis 2002, c'est la destruction programmée des années 8 et 10. Ah, donc, il y a un des derniers systèmes mutualistes en Europe qui permet une certaine sécurité, une continuité de droit face à la précarité et à l'intermittence. Donc, ces fonds spécifiques peut très bien ressembler à une caisse complémentaire, sachant que le MEDEF, la CDT, et il y a quand même énormément un courant relativement majoritaire qui voudrait nous entraîner vers des cartes professionnelles, vers un statut d'artiste, ce au quoi nous opposons formellement. Donc, ce que vous nous faites en Avignon, une fois posé ces choses, bien à redire comme rien n'est réglé, et nous avons des propositions à faire. Depuis plus d'un an, les coordinations ont fait un travail de proposition, d'élaboration, différentes expertises. Nous avons lu le protocole du 26 juin, nous en avons dénoncé toutes les perversités, et nous avons fait des propositions pour une nouvelle réforme, un nouveau modèle d'indemnisation pour les salariés intermittents. Ce que nous voulons faire en Avignon, en faire un lieu de rassemblement, un lieu de mobilisation et d'action, bien sûr. Nous avons donc un programme pour le 58e Festival des intermittents aussi. Comme Hortense le dit, c'est les plus grandes concentrations d'intermittents. C'est quoi? C'est en l'espace d'un mois. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à faire le compte, mais c'est entre l'équipe du INE, 600 intermittents, plus toutes les compagnies. C'est plusieurs milliers en l'espace d'un mois qui viennent aussi faire un festival. C'est toute une économie, c'est toute une région. Qui vit grâce à ça, c'est ça aussi cette mobilité. C'est une des raisons pour lesquelles aussi nous on veut une juste redistribution. Donc nous avons un programme en 3 points. Ce programme, 3 grosses journées qui seront le résultat et dans la suite de groupes de travail, de commissions que l'on met en place autour de la thématique abrogation, expertise, négociation. Donc une première journée le 14 juillet. Abrogation, donc il sera fait un point sur l'histoire de ce mouvement, sur ses enjeux en termes de droits sociaux. Pour nous, il n'y a pas de culture sans droits sociaux. Le deuxième, expertise, donc une expertise, plusieurs expertises sont en cours. Donc qu'est-ce que c'est que, quel était ce mouvement, comment les commissions ont travaillé pour analyser notre situation, et une expertise qui est en cours aussi. Annexe 8 et 10, cas particulier d'une problématique plus générale, comment financer la protection sociale de l'intermittence. Donc, ce sera fait un point là-dessus, ça sera le 20 juillet. Et enfin, le 26, négociation. Donc, c'est quoi l'UNEDIC? C'est quoi ce bunker? C'est quoi ce chiffre? Un jour 50 millions de déficit, un jour 4 milliards. C'est une opacité extrême. C'est l'UNEDIC, il y a un vrai abus de. Donc, un vrai putsch du MEDEF, de la CFDT, MEDEF qui représente jamais 1% des patrons français. Donc, suite à ce processus qui est engagé maintenant depuis plusieurs mois, longue concertation, il n'y a que le MEDEF qui fait blocage avec la CFDT. Nous étions sur le toit il y a encore 3 jours, donc nous sommes descendus. Donc voilà, troisième jour de négociation, qu'est-ce que l'UNEDIC? Évidemment, rappeler qu'il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de régime pérenne de l'intermittence hors d'un cadre de solidarité interprofessionnelle. Toutes les annexes à l'UNEDIC, normalement, se négocient dans une convention. Hein. On ne veut pas que l'intermittence devienne une nouvelle réserve indienne qui s'appelle l'exception culturelle. Nous défendons les droits sociaux pour nous fabriquer du sensible. Ce n'est pas se poser la question quel état voulons-nous faire et dans quel monde voulons-nous vivre. Pour terminer, un premier rendez-vous donc, est donné le 16 juillet suite au débat qui aura lieu ici, je pense, à 17h, organisé par la CGT sur un bilan sur la situation. Donc on vous propose à partir de 19h, au lieu de la coordination qui a été donnée via le festival et la mairie, un rendez-vous à partir de 19h, une rencontre pour tous ceux qui veulent participer à cette lutte et se coordonner avec la coordination nationale des intermittents et précaires. Et peut-être Claude va donner un numéro de téléphone et l'adresse précise. Je n'ai pas. Claude, du collectif 25 février, et de la coordination nationale aussi.
Donc, la coordination nationale des intermittents et précaires est présente sur Avignon à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet 2004. Donc le lieu, c'est l'école des Beaux-Arts, qui nous a été donc prêtée par la mairie d'Avignon et le festival d'Avignon. Donc ce sera ouvert de 10h le matin à 22h le soir. L'entrée principale, c'est le boulevard Raspail ou la rue Violette. Alors, ce lieu est un lieu de travail, d'information, de réflexion, de proposition, d'action, qui sera ouvert à toutes et à tous, c'est-à-dire professionnels du spectacle, public, mouvement en lutte, etc. Donc je vous donne les téléphones. Ouais. Mais je vais donner juste le numéro d'accueil. Donc l'accueil, 04 32 74 16 50. 04 32 74 16 50. Merci.
Donc merci, la lutte continue.
Donc, comme vous le voyez, le festival aura bien lieu puisque tout le monde en a besoin pour en faire un lieu de rassemblement, d'échange et de proposition. Quand on dit tout le monde, c'est aussi un certain nombre d'autres parties prenantes dans les questions qui sont ceux du régime de l'intermittence, notamment la CGT du spectacle. J'ai organisé un certain nombre de débats ici à Saint-Louis. Dans le cloître, les débats publics qui seront organisés, que vous trouverez dans le guide du spectateur. Notamment aussi, l'information que vous trouverez dans le guide du spectateur, qui sont 4 journées organisées par le SYNDEAC, qui est un syndicat des entreprises, des entreprises subventionnées, qui fait aussi 4 journées. Là, toutes les informations sont dans le guide du spectateur. Le lieu et les beaux-arts et les journées organisées par la coordination n'étant pas prêts au moment où nous avons imprimé le guide du spectateur. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler les différents partenaires du festival. Je vais demander à la chartreuse et à la maison Jean Villard de venir nous rejoindre. Les partenaires historiques, on est très très heureux de vous retrouver à nos côtés cette année. Et pour qu'ils nous présentent un programme pour le festival. Daniel Girard.
Oui, voilà, c'est bien ce genre de choses. Mais j'étais très heureux d'entendre la lecture de cette déclaration, parce qu'elle a été faite par un des communiens qui vient de Chartreuse, et que ça m'a semblé assez symbolique par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, et par rapport à la position que Chartreuse a prise, qui était une position sans ambiguïté par rapport à la composée, et qui a réuni autour de nous, pendant tout le festival, du public, des artistes qui sont venus et qui ont fait que Chartreuse a continué à vivre un autre festival, mais qui n'était pas moins intéressant que celui que l'on avait programmé. Donc pour moi, c'est intéressant aussi d'apprendre que c'est une star que je côtoie tous les jours. Donc ça, c'est bien aussi. Pour ce festival, ces rencontres d'été que nous présentons cette année, bien, c'est une chose importante pour nous parce que c'est une renaissance du travail avec le Festival d'Avignon qui, comme vous l'avez vu, s'était un peu estompé, avait même complètement disparu et nous étions retranchés dans le côté royaume de France. Et donc cette année, on a inventé avec le Festival d'Avignon une nouvelle façon de pouvoir travailler ensemble avec deux propositions. Une proposition du festival, une proposition de la Chartreuse. Et ces propositions, elles sont pour nous intéressantes dans la mesure où elles reposent sur deux auteurs qui sont des auteurs évidents sur le plan de l'écriture théâtrale. Et puis, par rapport à tous ces artistes qui ont veillé à Chartreuse et qui sont aussi, chacun dans leur domaine, non pas des stars de cinéma, mais vraiment des grands comédiens de théâtre. Donc pour nous, c'est important. Avoir Ludovic Lagarde, c'est pas mal du tout aussi pour nous. Donc c'est vrai que cette année, on a ces deux visages de la Chartreuse, le travail avec notre grand partenaire et le travail de la Chartreuse, et en même temps, ce travail en résidence qui se poursuit toute l'année. Et donc, Ludovic Lagarde et Olivier Cadio sont venus ensemble très très souvent dans la Chartreuse cet hiver. Olivier Cadio a écrit son texte, etc., donc qui va aboutir donc à deux créations et à une reprise, cette reprise du colonel des Oies, si vous n'avez pas vu dans un des précédents festivals d'Avignon, je vous conseille de le voir. Quand j'ai dit ça, je suis très machiavélique parce que je pense qu'il n'y a plus de place, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et puis, notre affaire à nous, la Chartreuse, c'est de vous faire voir, de vous présenter le travail que nous faisons pendant l'année. Et ce travail que nous avons fait en partenariat avec le Gard et le Vaucluse. Nous avons présenté donc Jacques Robotier, qui est notre auteur en résidence. On l'a présenté à toute une population, puisque nous avons fait des lectures de ses œuvres un peu partout. Et donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui connaissent Jacques Robotier dans un public qui nous environne. Et ça aussi, c'est un accompagnement de l'idée du Festival d'Avignon qui est de s'ancrer dans une population, d'aller vers elle, de la concerner par des artistes qu'elle ne connaît pas et dont elle fait la connaissance. Et pour tout un public, rencontrer un auteur, c'est une chose tout à fait inhabituelle. Et même sur le plan du théâtre, très peu de gens connaissent les auteurs. On connaît les artistes, on connaît les metteurs en scène qui les présentent, mais l'auteur, on ne le voit jamais, on n'en entend pas parler, sauf pour dire que c'est lui qui a écrit. Donc, nous, notre travail, c'est en effet de faire rencontrer ces auteurs à toute une population. Est-ce que j'ai passé les 5 minutes? Non, oui, je peux. Bon, alors j'arrête. Voilà, ben, on vous donne rendez-vous à la Chartreuse pour un spectacle de Robotier qui va être aussi assez chartreuse, ça sera une énorme déambulation dans tous les coins de la Chartreuse avec des choses très inhabituelles, très
présenter, on va, je pense, surprendre un peu notre public, et celui qui vient habituellement ne le sera pas parce qu'il connaît nos us et coutumes, mais je pense que tout un autre public va découvrir un auteur assez engagé.
Ici Daniel, juste pour dire que c'est un énorme bonheur pour nous de travailler toutes ces années, d'accueillir la compagnie de Ludovic Lagarde en collaboration avec la Chartreuse et avec l'équipe de Daniel.
Un autre bonheur, c'est d'avoir aussi travaillé avec le projet de l'art. Donc j'ai fait la zone pour tout ce qu'il a fait pour qu'il puisse effectivement retrouver des liens entre la maison journalière et le festival, parce que le festival est de loin. De la maison journalière pour avoir une mémoire importante, une mémoire non pas fixée, mais une mémoire vivante qui nous permet tous les jours de nous aussi nous aider à construire le festival chaque année.
Oui, je voudrais dire rapidement tout le plaisir que nous avons. Je suis ici avec président de Maison Villard, Florence Dion, d'être près du festival à ses côtés. On s'amuse souvent à dire qu'on est à côté de lui un petit temps en arrière, c'est-à-dire on va pas l'observer et l'espionner, mais au contraire pour l'aider à réfléchir, à s'enrichir. Et la collaboration avec Vincent Artens, on va l'écouter aussi avec toute une équipe qui est vraiment amicale, hospitalière. Très agréable à été pendant cette année, parfaitement positif. Pour aller vite, puisque le temps est compté, je voudrais simplement vous renvoyer au cahier que nous venons de sortir, qui résume, je crois, à peu près, qui exprime les intentions de ce que nous pensons pouvoir faire de cette maison. Vous savez que c'est une maison qui a maintenant près de 25 ans, elle a été créée par un homme peu ordinaire, qui a aussi dirigé le festival des Lyons, et qui a été l'ami et le bon président de la formation de la maison. On ne succède pas à l'école plus haut, on vient après lui, tout simplement. C'est la vie qui nous conduit là, avec ses hasards et ses nécessités. Et je crois que la maison va donc faire face à deux problèmes, enfin deux questions. L'une, c'est naturellement la préservation de la mémoire, ce qu'on appelle le trésor de guerre, c'est-à-dire tout ce qui fait le fond de la maison d'Ambilard, le fond facile. En ce sens, nous avons de magnifiques costumes, tous les écrits qu'il a, tout le travail qu'il a pu depuis 25 ans dans cette maison avec son épouse Mélie. Nous avons, grâce à la mairie d'Avignon, un ensemble immobilier qui nous est confié tous les 30 ans avec un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, laquelle met à votre disposition sous l'animation d'un conservateur en chef qui part ici, donc parmi nous aujourd'hui, Marie Billard. Près de 30 000 volumes qui sont souvent consultés par près de un peu plus de 20 000 visiteurs annuels. Bref, nous héritons d'une maison en état de marche magnifique et qui est très très active, et pas seulement au moment du pic de préparation de l'été, mais aussi peut-être chaque hiver. Donc maintenant que faire? Donc d'un côté, la préservation de cette mémoire, et ça rémunéré par ce cahier, par un travail que nous avons fait tous ensemble autour de l'exposition qui est la reprise de l'exposition qui l'année dernière avait eu beaucoup de succès, mais encore pas assez, car en fait elle n'avait pas rencontré tout son public pour les raisons que vous devinez, puisque le festival était annulé. Mais il n'empêche que par un heureux hasard, ou une juste prémonition, nous avions réuni, mis en perspective les directions successives du festival. Et je crois que cette année, nous aurons plaisir à retrouver cette exposition, mais enrichie, augmentée et complétée d'un regard, je dirais, plus politique que l'année dernière encore, puisque il y a même quelques surprises dans le montage vidéo que nous avons fait qui ne devraient pas manquer de piquant. Par ailleurs, et au rez-de-chaussée, nous collaborons naturellement avec le festival. L'exposition Villard connaît pas le premier étage, qui portait un autre titre l'année dernière, puisque nous avions appelé un rêve que nous faisions tous. Mais lorsque l'année dernière, certains jeunes intermittents, dans leur protestation, cherchaient le chemin de la maison Jean Villard, ils ne le connaissaient pas. Et ils avaient tendance à écrire Villard avec deux L, ou avec un D à la fin, ou un S, tous ces titres plus provocateurs cette année, qui est là pour piquer naturellement la curiosité. Cette exposition était coproduite avec le festival. Celle qui, au rez-de-chaussée, vous accueille et vous présentera le travail d'Oscar Meyer est également une coproduction avec le festival. Elle a été animée et réunie par un commissaire du Proteste Somus, qui pense à un commissaire de bien ami, qui s'appelle Barbara Angela, et qui a parfaitement éclairé et commenté le parcours d'Oscar Meyer. Cette exposition est vraiment très nourrissante et très intéressante. Donc, l'actualité, la modernité, et puis aussi le regard un petit peu à l'extérieur. On s'est amusé à la terre des festivals, on s'est amusé à aller à la découverte d'un Eurofestival, et nous sommes allés interroger 8 grands directeurs de grands festivals, au hasard à Vienne, en Autriche, à Constance, un festival allemand, par le quartier d'été, Chalon, Charleville, Aix-en-Provence, et les directeurs ont dû lui répondre à des questions pour savoir si eux aussi sentaient le poids de l'histoire, se tenaient dans l'avenir. Enfin, toujours la mémoire, je vous signale que la maison édite cette année une correspondance de Gérard Philippe et de Jean Villard, et qui me semble être très importante, car c'est là aussi la diversité des maisons. Voilà comment la maison est passée dans ce heureux mélange d'être un rôle de la maison, et enfin d'être tout le temps ouverte, elle l'est tout le temps. Et plus particulièrement ce soir, à partir de 18h, nous attendons que nous soyons fort ouverts. Nous avons invité toutes les équipes artistiques, techniques, administratives, du ville, du bas, dans un cercle aussi élargi que possible. Donc, on va nous assurer de pouvoir renouer avec l'amitié de la maison de la chanteuse, de ces lieux, de cette ville. On vous dit à tous.
Et à Amélie Grand, s'il veut bien me rejoindre. Donc ce sont trois partenaires avec lesquels, excusez-moi, comme disait Vincent tout à l'heure, nous avons pu déployer des parcours d'artistes, c'est-à-dire autour des spectacles, des créations, inventées avec les uns et les autres, des correspondances, pour là aussi proposer au public la plus grande richesse possible. Autour de leur spectacle. Alors, honneur aux dames, Amélie, si tu veux bien commencer.
Je suis très contente de vous retrouver ici avec l'équipe du festival et aussi avec tous les amis d'Avignon que nous côtoyons pendant toute l'année. Parce que vous savez que entre la danse et la danse, on est toujours un peu seul. On remarquerait qu'encore aujourd'hui, la danse est seule au milieu de tout ce qui part en classique, en deux théâtres, etc. D'autant plus que, hélas, j'ai perdu mes collaborateurs du théâtre, parce qu'eux, ils sont les seuls conventionnés, j'aurais bien voulu être avec eux pour les y conventionner. Mais bon, la danse fait encore partie différente du théâtre. J'espère qu'on se remettra ensemble bientôt. Ce matin, j'étais très, très attentive, et j'ai été avec beaucoup d'intérêt, complexe qu'infernale. Et en les entendant parler, je me rappelle d'une petite chanson qu'on avait fait, petit quatrain qu'on avait fait dans un spectacle précédent. Alors, comme on est entre amis, je vais vous chanter. Une Amélie qui se dit, faut gagner son paradis, elle met l'endroit à l'envers, mais l'envers c'est l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait 27 ans que ça dure, c'est pas facile. Et je souhaite beaucoup de courage à vos amis de Complexe Capernaum, parce qu'ils ont dit ça ce matin, qu'ils retournaient la ville et qu'ils mettraient l'endroit à l'envers. Alors moi, quand je vois là, c'est juste le début, et bien nous, on devrait mettre, c'est encore le début. Et il y a peut-être quand même quelques raisons d'espérer, car je me sens presque en purgatoire. La presse locale et la presse nationale parlent des hivernales l'été en disant « Ah, c'est le in du off ». Déjà, ça va. Maintenant, on va être « in » et « off », être un partenaire du festival, et c'est bien mieux. Et puis aussi, parce que quand on travaille comme ça toute l'année, et que on a des amis très fervents dans la ville, que c'est grâce à nous, que c'est grâce à nous tous, tout l'hiver, qu'on arrive à faire les hivernales et qu'on arrive à faire l'été des hivernales. C'est ouvert tous les copains, y compris ceux du théâtre, y compris ceux du public, y compris tout le monde, Utopia et bien sûr le théâtre de monde et beaucoup de collaborateurs, même si la danse contemporaine, qui est à l'honneur dans le Festival d'Avignon depuis si longtemps, a du mal, beaucoup de mal.
finale à se faire reconnaître pour une passionnée très changeante. Alors, cette année, nous avons le grand plaisir que le festival soit avec nous sur deux actions que nous avions commencées déjà avec les amis que j'ai cités. C'est le Cinédance, qui est une opération qui se fait avec un prix qui est signé avec le pièce avec les 10h30 tous les matins, entrée libre, dans la salle merveilleuse du cinéma climatisé. Nous illustrons la plupart du temps les chorégraphes qui sont présents dans le festival. Et nous les recevons aussi. Mais là, c'est une opération que nous faisons depuis 4-5 ans, quand nous offrons des films qui parlent du travail des chorégraphes présents dans le festival, bien sûr. Et puis aussi, nous en profitons pour parler de ce qu'on aime bien dans le biennale. Et peut-être aussi, on trouverait cette année des chorégraphes qui sont en avant-première des hivernales. Comme vous l'avez cité tous, vous aurez tous les papiers nécessaires pour le faire. La deuxième opération avec le festival, c'est le point de danse. Alors, le point de danse, c'est toute une histoire. Depuis longtemps, avec une critique de danse et avec et avec la commission départementale de la jeunesse et du sport, on s'était aperçu que la danse était vraiment le pied dans le festival, puisqu'elle le remportait même pas 50 compagnies, dans les compagnies du festival du Léon, non 750. Et on a décidé de faire un point, de relever la danse dans la salle de la jury, dans la même ascension, c'est le lieu où nous sommes. Donc, c'est au premier étage. Et c'est le lieu de la danse, c'est là où il y a le calendrier de tous les spectacles de danse, dans le Trujet, où nous recevons tous les dossiers, les vidéos, mais aussi nous recevons les compagnies de danse, les chorégraphes, à midi tous les jours, pour parler avec eux. Donc, les chorégraphes avaient déjà l'habitude de venir, mais avec l'alliance du Festival d'Avignon, ça va être maintenant beaucoup plus important. Et lui, il avait fait déjà l'alliance, et maintenant l'alliance est bien officielle. Et là, je ne sais pas comment, pourquoi on appelle OFF l'officiel. Je ne sais pas. Donc, merci donc à l'équipe du festival. Vous trouverez aussi des rencontres avec les chorégraphes présents dans tous les documents qui nous sont distribués. Et nous, en plus, nous recevons dans la même portion 6 spectacles, parce que d'habitude, on en reçoit 4 équipes. La dernière, comme vous savez, personne n'a pu jouer. Donc, c'est 6 drôles de dames en petite forme, très charmantes, très insolentes. Et puis, 2 conférences de démonstration spectacle drôles qui vous donneront une idée sur l'histoire du mime et une autre sur l'histoire du tambour dans la danse contemporaine. Voilà, je peux dire merci à tout le monde.
Qui ne peuvent pas travailler avec quoi les pays, qui le créent de façon indépendante, sont dans une situation catastrophique. C'est juste une parenthèse. Cet été, nous allons présenter un certain nombre de documentaires. Et il y a certaines de ces personnes qui travaillent aujourd'hui qui pensent qu'ils ont de l'argent. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Et je pense que cet été, malheureusement, ils ne sont pas présents à Gibraltar non plus. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, ils sont très proches de l'argent, ils sont très proches de la famille. Et pourtant, c'est des gens qui sont en train de s'abonner à la vie, mais dans tous les sens du terme, donc nous allons nous abonner à notre vie. Et je suis très heureux. Sinon, donc, effectivement, c'est un petit peu de travail humain depuis quelques années avec le Festival de l'Union, mais cette année, on a une nouvelle direction. Donc, le 10h30 du matin, on travaillera donc à la Militant, où on présentera la Militant. Donc, avec le gouvernement, c'est le Festival de l'Union qui décide dans, je n'en parle pas, la Militant. 14h30, nous présenterons toujours avec le Festival d'Avignon une dizaine de rencontres avec donc, des gens de théâtre qui sont présents à Avignon. Ces gens viendront vous présenter aussi bien des documents qu'ils ont réalisés, que des fictions qu'ils ont réalisées, que des documents qui ont été sur eux, ou tout simplement des choses qu'ils avaient envie de présenter. Donc c'est Vincent Salé, le plus marqueur, qui sera présenté. Des documents qui ont été réalisés par d'autres commerciaux, on commencera par les commerciaux. c'était une générale de la Pentascale Lannes, je crois, qui a présenté une recherche pour les gens, un film de la Pentecôte. Donc je ne vais pas vous faire, je ne vais pas vous donner les détails, vous pouvez trouver dans le programme, vous pouvez trouver le festival des Lignes. Enfin, toutes ces séances sont gratuites. Et c'est un travail qui peut être à la périphérie de ce qui se présente. On va essayer un peu de l'approcher peut-être différemment. Et nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est que l'image étant peut-être une fois plus facile d'approche que le théâtre, c'est un moyen peut-être pour de personnes d'approcher le travail de metteur en scène. Et donc peut-être après, au lieu d'être suffisamment curieux pour aller plus en avant et d'aller voir directement les pièces qui sont proposées. Cette année, on a développé un deuxième plan autour en fin d'après-midi. On a composé un certain nombre de théâtres présents aux femmes, d'ailleurs, des théâtres présents dans la Réunion. Je pense qu'ils étaient intéressés pour présenter des films, parler des cinéma qu'ils aimaient. Et là, on a été effectivement très surpris parce qu'on a eu un nombre de réponses incroyables, ce qui est tous plus ou moins partant, pour venir parler du cinéma qu'ils aimaient et peut-être du cinéma qui les a aidés à fabriquer leur théâtre. Donc, on a été obligés malheureusement de faire des choix. Alors, ça, c'est assez difficile. Je pense que les prochaines, on essaiera de faire mieux. Mais vous aurez quand même des rencontres, je pense, qui seront très intéressantes. Par exemple, René Conversia qui nous a parlé de Super Size Me, qui nous a dit un documentaire sur Magdalena, c'est assez intéressant. Claire Lannes qui nous a parlé de Prince et Princesse, puisqu'elle est à DAC, c'est aussi très intéressant. Thomas Sartre-Mayer qui va venir parler de Rosetta, qui est Claire Dardenne. Franchement, j'ai pensé beaucoup de curiosité, de gens qui sont vraiment passionnants, etc. On peut trouver tout ça dans notre programme, on peut plus mettre aussi, mais je vous remercie beaucoup.
La parole à Hugues Antonini pour le cycle d'or, qui est quelque chose de très étonnant, ce festival, finalement, c'est une chose historique aussi. Depuis des années, ce festival de théâtre, de danse, de spectacle vivant, a aussi un volet musique qui est le cycle d'or. Et cette année, nous avons beaucoup discuté avec Hugues, qui a décidé de donner une couleur particulière à ce cycle d'or pour s'en rapprocher encore du programme que nous étions en train de construire.
Je la question sur la pertinence de l'espace de cycle d'or au sein même de l'école de théâtre et quel festival de théâtre. En effet, ce cycle d'or franchirait le temps depuis son existence, depuis sa création en 1967, et cette année, nous nous sommes posé la question, mais comment émerger en prolongeant, je dirais, la programmation du festival, pour ce cycle d'or ne soit pas simplement dans le cadre du festival d'Avignon. Donc on a beaucoup discuté avec Hortense et Vincent à ce sujet, et sur la première idée qui nous a venue, c'est, je crois, la validité à l'honneur, évidemment. Donc on a pris de manière problématique deux des compositeurs. Représentant la grande tradition musicale européenne, Bach et Mozart, et deux de leurs chefs-d'œuvre, pas forcément les pièces les plus connues, mais deux de leurs chefs-d'œuvre néanmoins, l'intégrale des sonates d'église pour trio à cordes et orgue, en ce qui concerne Mozart, et les 45 chorales du petit livre d'orgue pour orgue, en ce qui concerne Bach, vont être données dans leur intégralité sous une forme un petit peu particulière et originale, puisque en ce qui concerne les sonates d'église, des textes de et sur Mozart alterneront et seront lus par un comédien bien connu ici à Avignon, Bertrand Hureau, du Théâtre des Carmes. Et en ce qui concerne le deuxième concert, les 45 chorales du petit livre d'orgue, chacun des textes, les psaumes qui constituent chacun des chorales seront déclamés par et lus par un comédien, mais là en allemand, et un comédien de la Schaubühne de Berlin, en l'occurrence Lars Eilinger, qui a été proposé donc par Hortense et Vincent. Donc déjà, là, on voit un lien un peu plus fort avec la programmation même de théâtre. L'autre point fort, nous avons eu l'idée de proposer un ciné-concert, en fait, au Temple Saint-Martial, avec la projection de L'homme qui rit de Paul Lénine après Victor Hugo, et durant la projection de ce concert, film muet, l'organiste et compositeur Thierry Esquèche improvisera, comme cela se faisait à l'époque des premiers films muets. Voilà, je crois que ça, c'est une grande première en ce qui concerne le festival en tout cas. Un autre point fort aussi, c'est des textes de Lubitsch Miloš qui seront proposés au cours d'un concert à Valocène sur le Miguel Manara, qui en fait était le premier Don Juan qui a véritablement existé. Et ces textes seront lus en alternance avec des pièces d'orgue qui illustreront, je dirais, le parcours dramatique de ce texte avec un organiste espagnol. Et ce texte sera lu aussi par deux comédiens qui travaillent en collaboration avec Claire Lann sur le spectacle « Joyeux anniversaire », qui sont Dominique Guillard et Gérard Hardy. Donc là aussi, un lien assez fort avec la programmation du festival. Donc en fait, bon, je ne vais pas énumérer tous les concerts puisqu'ils figurent dans le programme. 12 concerts seront proposés cette année, toujours sur différents instruments historiques autour d'Avignon et Avignon même, ainsi que 4 concerts de chœur uniquement à la métropole Notre-Dame-des-Dons. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier une fois encore Hortense Archambault et Vincent Baudrier de continuer à s'intéresser à l'orgue au sein du festival.
Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant appeler les 5 scènes conventionnées d'Avignon à nous rejoindre sur ce plateau. Donc Alain Timar, Gérard Montagu, Gérard Gilas, Rébelle de Tour.
On a décidé, au moment de l'envoi du programme, d'insérer une présentation de la programmation de ces 5 théâtres qui se sont associés. Voilà, donc, Gérard, tu commences pour présenter la programmation de cet été.
Le spectacle est important, tous les spectacles sont importants, mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est l'union de nos théâtres. Je crois que cette union dans la ville d'Avignon a une forte signification pour moi. Tout le monde est sur le spectacle que je présente cet été, qui s'appelle Les Cours de la Rue, qui rapporte l'histoire d'un couple de clochards SDF avant l'heure, puisque l'action se déroule dans les années 30. Et le spectacle est véhiculé par la chanson, puisque chanson contient au répertoire de ces années-là. Voilà, merci.
Merci. Alors Tima.
D'accord, donc la parole circule vite. J'aimerais préciser quelque chose un petit peu sur ces fameuses scènes conventionnées. Conventionnées, le terme ne me plaît pas beaucoup. Le terme des scènes d'Avignon, le terme est plus générique et plus concret par rapport à la ville d'Avignon. Il ne s'agit pas d'un club fermé. Il ne s'agit encore moins de compagnies qui se sont réunies pour défendre leurs intérêts. L'histoire, et notamment l'histoire de cette ville, l'histoire du théâtre qui travaille ici, donc en permanence, ici et ailleurs. La crise également de l'année dernière a permis à ces théâtres de prendre conscience de plein de choses et peut-être d'être un peu plus mûrs. Et d'un seul coup, de se dire, ah ben voilà, nous travaillons ici, nous faisons plein de choses, ici et ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et nous avons peut-être des choses à nous dire sur la manière dont nous fonctionnons, sur ce que nous représentons, sur la manière dont nous ressentons ce festival. Est-ce une agression pour nous ou est-ce également une fête pour nous? Toutes ces questions sont venues à point, à l'ordre du jour pour nous. Et ce sont de ces questions dont nous débattons. Et ce sont sur ces questions que nous voulons peut-être peut-être essayer d'enrichir le débat et trouver des réponses. Donc il ne s'agit nullement d'un club fermé, bien au contraire. Et j'espère, comme le disait Amélie Grand tout à l'heure, que très bientôt, nous pourrons l'accueillir en notre sein. En ce qui concerne donc le Théâtre des Halles, vous le savez, c'est un lieu de création. C'est un lieu qui n'accueille pas beaucoup de spectacles. Cette année, nous avons cinq spectacles invités sur deux espaces. Donc en gros, deux spectacles et demi par salle. Ce que nous voulons, vraiment développer de très bonnes conditions pour l'accueil des artistes et des compagnies que nous invitons ou avec lesquelles nous co-réalisons des spectacles, voire même nous coproduisons des spectacles. Donc c'est dire que notre engagement au niveau de la création, et en particulier de la création contemporaine, est important pour nous. En ce qui me concerne, donc, vous pourrez découvrir plein d'auteurs inconnus, notamment, et d'auteurs étrangers aussi. En ce qui me concerne, la création, que je ne vous parlerai pas de la reprise, mais je vous parlerai de la création que je propose cette année au public qui vient ici. Le titre du spectacle, c'est « Babel le taxi », directement inspiré du fameux mythe ou des 9 versets de la Tour de Babel que vous connaissez peut-être et dont vous avez pu lire les 9 petits versets dans la Bible ou l'Ancien Testament. C'est un mythe qui me traverse, qui me travaille depuis très très longtemps. Et puis, opportunité, chance, j'ai eu l'occasion d'avoir un producteur américain, figurez-vous. Un coproducteur américain. Rassurez-vous, ce n'est pas l'Amérique de Bush que j'ai rencontré, c'est l'autre. Et ce producteur américain donc, m'a proposé, ayant suivi mon travail pendant plusieurs années, m'a proposé la coproduction de ce spectacle à 50% de son financement. Chose extraordinaire, chose rare. Quel est le Centre dramatique ou la scène nationale, quelle est l'institution en France qui pourrait proposer un financement d'un projet comme celui-là à 50% de son montant, je n'en connais pas. J'ai saisi l'occasion, et voilà, donc je me suis embarqué dans cette affaire, ma belle taxi, avec, regardez bien, une commande d'écriture d'un écrivain complètement inconnu aux États-Unis, qu'on connaît un petit peu ici, qui est Mohamed Kassimi. Une commande musicale. Un compositeur et musicien que vous connaissez peut-être, Jean-Jacques Lemaître. Le choix de 12 comédiens venus des 5 continents, c'est vous dire le travail qu'il a fallu pour les réunir, ces comédiens. Avec une production, donc une première mondiale aux États-Unis en version américaine, et dès le 8 juillet au Théâtre des Halles, première donc en version française. Voilà, donc je suis sur cette aventure. Qui est aussi une belle chance qui m'est donnée.
Merci Alain. On va passer
le
micro à
Gérard Jeunesse. Écoutez, moi je voudrais d'abord te souhaiter, pourtant c'est toi Vincent, un beau festival. Et puis vous dire tout simplement, donc très rapidement, parce que c'est vrai que tout c'était passionnant, mais tardive. Vous dire que ce qui concerne très rapidement la scène d'Avignon, pour poursuivre ce que dit mon ami Alain, Dimar, la scène d'Avignon, c'est à l'année, sur l'année, 125 000 spectateurs. Bien sûr, c'est pas quelque chose de fermé, c'est pas un club, et là je m'adresse à Amélie, bien entendu. Par contre, on se coopte. C'est-à-dire que comme c'est pas un club, comme c'est pas un gang, comme c'est pas une association d'intérêt commercial, on se coopte, comme ça s'est déjà fait dans le théâtre français dans d'autres temps. C'est-à-dire qu'on se reconnaît mutuellement par rapport à nos intérêts artistiques, et puis on se dit on s'amuse ensemble. Ça veut dire discuter, ça veut dire peut-être un jour faire quelque chose même artistiquement ensemble, en tout cas partager, ça veut dire aussi dialoguer, y compris de manière critique entre nous, etc. Enfin bref, être vivant, être des artistes. Donc c'est pas un club dans lequel il faut rentrer, surtout pas. Ce sont des gens qui se rencontrent et qui décident d'aller plus loin dans l'échange. Sur ce qui concerne le tableau chat noir, bon, écoutez très rapidement, je reprends Guantanamo, qui est une pièce dont beaucoup de gens ont entendu parler, donc j'ai écrit il y a 2 ans, c'était l'époque où on ne parlait pas beaucoup du bail de Guantanamo. C'est vrai que ça a été long pour moi pour imposer ce spectacle, a été relativement long. Aujourd'hui, c'est un spectacle qui tourne partout en France et à l'étranger et qui traverse Avignon en tournée durant un mois dans mon théâtre. Et puis, le deuxième temps fort en ce qui concerne la création, ce sont les constellations aquatiques, d'un spectacle jeune public, tout public, enfin bref, pour tous, mais accessible aux enfants dès l'âge de 6-7 ans. Quoi. Et puis après, il n'y a plus d'âge. Et c'est un spectacle qu'on devait créer l'été dernier, donc, et que nous avons créé en décembre au Théâtre du Chêne Noir, et qui sera aussi donc, dans le mur cet été. Et puis, bon, tout le monde sait aussi que j'ai une programmation qui ne consiste pas bon, à. J'ai une programmation de théâtre, donc j'invite les gens. Et je produis aussi des spectacles. Cette année, je produis le spectacle de Brigitte Fossé, sa fille Marie-Adam sur Coteau, qui produit son Chêne Noir, qui partira ensuite pour tourner aussi chez Brigadier et ailleurs. Et puis, j'accueille des spectacles dont vous trouvez partout, même sur des formations, mais des gens que j'affectionne beaucoup, tout d'auteurs aussi, comme Neruda et d'autres, qui sont des auteurs pour nous, Chêne Noir majeur. J'en ai fini, sinon pour vous dire à tous que cet été est effectivement peut-être un bel été, et que bien entendu, le Chêne Noir, comme l'ensemble des gens de Saint-Denis et tous les autres artistes, sont concernés, je suis membre du CDAC, sont concernés bien entendu par la vie actuelle de Saint-Denis. Et c'est aussi le point de vue actuel.
Merci Gérard,
Serge
Jean-Pouchet.
Oui, merci de nous donner la parole aujourd'hui. C'est, je crois, une première, on va pouvoir parler de nos spectacles. Aujourd'hui, à la conférence de presse du Festival Lille. Bon, c'est bien, tant mieux. Alors, je vais parler, bien entendu, du spectacle que nous créons cette année, puisqu'il s'agira d'une création. La première aura lieu avec l'arrivée du festival. Et comme nous l'avons fait depuis longtemps, bon, c'est, je crois, très important aussi de ne pas arriver ici avec un spectacle, quand on le peut, en tout cas, avec un spectacle qu'on a déjà traîné ou fait ailleurs. Là, c'est véritablement, on fait des filages, on ne sait pas encore comment le public va réagir. Et on a tout le trap qui est présent. Alors, ça s'appelle Tango Neruda, presque tout est dans le titre. C'est à la fois l'univers de Piazzolla qui rencontre un texte inédit de Neruda. C'est un texte qu'il avait fait avec Pablo Picasso. Et donc, le mélange à la fois des peintures de Picasso, les textes de Neruda et la musique de Piazzolla, on est servi pour faire un spectacle, je crois, qui va attirer et qui va véritablement donner un sens à ce projet. Voilà. Bien. Donc, sinon, en tant que théâtre du balcon, nous avons bien entendu un programme très élargi. Cette année, entre autres, nous donnons la parole à un auteur qu'on affectionne, c'est Michel Villavert. Sur 2 textes inédits en France, 11 septembre, un texte sur l'extrême droite en Autriche. C'est une création qui se fera aussi à Avignon et qui aura le soutien de Beaumarchais. Nous avons différents spectacles de théâtre et puis nous avons beaucoup de musique, comme toujours, puisque nous souhaitons aussi donner une grande place à la musique au Théâtre du Balcon. Voilà. Je vous laisse la parole à André Nébéto.
Merci.
Si je dis à un acteur d'être aussi beau et présent sur une scène qu'une vache immobile dans un pré qui me regarde, il rigole. Et puis je prends l'appareil photo. Il rit encore un peu, jaune. Et peu à peu, il commence à se demander qui il est et ce qu'il doit représenter. Pour être lui, c'est qui? Pour plaire à qui? Comment? Il est là avec tout son vécu, toute son histoire, face au monde entier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit montrer pour être vraiment lui? La certitude l'abandonne. La vérité ouvre toutes ses trappes. Le vertige le prend à ce moment-là, dans ce désarroi, dans ce naufrage, on entre avec lui dans les questions, c'est-à-dire dans le théâtre. Et l'acteur devient soudain une vache métaphysique. Et alors ? Par ailleurs, nous donnerons quatre spectacles de quatre auteurs différents, dont le titre seul contient toute la pièce. D'abord, ce sera La nouvelle histoire de Jean, de Pierre Hugo. Ensuite, ce sera Facho Papa, des anonymes associés. Ensuite, Surexposé, ou les théâtres successifs du harcèlement sexuel. Et enfin, Voix de la rue, ou À vendre pour le cœur. Merci.
Merci. De nous rejoindre pour finir par l'essentiel aussi de tout cela qui est le public, Jean-Noël, des CMA avec lesquels nous continuons la collaboration puisque là aussi c'est un partenaire historique et essentiel du festival.
Voilà. Oui, c'est toujours difficile d'être le dernier, mais je pense que nous avons là une occasion renouvelée de maintenir un cap tout à fait essentiel dans ce festival, dans la relation que le festival a toujours souhaité entretenir avec son public. Et je dois dire que Hortense et Vincent, avec qui nous réfléchissons depuis leur arrivée sur cette question, ont le souci du public, comme le disait un de leurs prédécesseurs. Ils ont le souci des artistes, mais ils ont aussi le souci du public. Et donc les CMA, qui sont une association d'éducation, depuis Jean-Villa, ont mis en place des espaces d'accueil du public, qui est un lieu à la fois de mémoire et à la fois de régénération du public. C'est assez paradoxal, nous recevons chaque année dans les lieux d'accueil de festival que nous gérons, des gens qui connaissent très très bien l'histoire du festival, qui sont des résistants en quelque sorte pour que le sens de ce qui se passe dans ce lieu soit préservé. Et en même temps, nous recevons les nouvelles générations de théâtre qui seront demain les militants qui feront que ces espaces de réflexion autour de l'art, autour de ce qui nous concerne tous comme citoyens, sera préservé. Voilà, donc cette année, très concrètement, nous avons pris le pari avec l'équipe du festival d'animer tous les deux jours un lieu de parole que l'on a intitulé ensemble « Dialogue avec le public ». Et ce mot « dialogue » dit tout le sens de notre vœu autour de ce travail, qui est de permettre au grand public de parler profondément, sincèrement, simplement avec les artistes dont qu'ils ont vu le travail. C'est donc, ce sont des lieux donc où on va pouvoir partager des émotions, des réflexions, et donc avoir accès directement à des compréhensions nouvelles, peut-être, et complémentaires de ce que nous avons vécu comme spectateurs pendant le spectacle. Voilà, donc ce sera tous les deux jours, dans la cour du lycée Saint-Joseph, à 11h30. Et ben, nous souhaitons à tous beaucoup de courage, et je pense que nous allons ouvrir une nouvelle époque dans la joie, dans la confiance et dans le succès. Merci.
Donc un petit mot aussi très important, puisque nous disons beaucoup à quel point nous sommes attachés à la notion du service public pour le spectacle vivant. Je crois qu'il faut rappeler que le festival existe parce qu'il est subventionné, tout d'abord par le ministère de la Culture et de la Communication, par la ville d'Avignon, par le département de Vaucluse, par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et également cette année, nous avons trouvé des soutiens de collectivités publiques étrangères. Je voudrais les remercier parce que c'est important pour nous. Le soutien des subventions permet à la fois aux artistes de faire les spectacles dans la plus grande liberté possible, nous permet à nous de faire notre travail de programmation dans la plus grande liberté possible et permet au public de venir voir ces spectacles à un coût qui n'a rien à voir avec le coût réel
aux Camilles de le payer si nous n'avions pas de subvention. Pour les subventionneurs étrangers, nous avons évidemment beaucoup, ça n'a pas été évident et c'est pour ça qu'on voudrait le souligner. Donc, des soutiens allemands, il y a le Sénat de Berlin, la Loterie de Berlin, la déléguée à la culture et aux médias du gouvernement fédéral allemand et le ministère des Affaires étrangères allemand qui nous ont apporté un énorme soutien sur la programmation allemande du festival. Également, nous sommes soutenus par le ministère de la Culture de la communauté flamande pour la partie flamande de la programmation. Nous avons également eu un soutien public aussi des Royaumes des Pays-Bas pour la venue de la compagnie Hollandia et le programme que nous avons pu, grâce à ce soutien, développer autour de leur venue. Et enfin, le soutien de Pro Helvetia, qui est aussi l'organisme public qui supporte la culture en Suisse. En dehors de ces partenaires publics, qui sont la grande majorité de nos financements, après, il y a le public qui nous finance, et c'est évidemment essentiel. Et enfin, moins important par le chiffre, mais important parce qu'il est là aussi, c'est important qu'il soit là. Je voudrais remercier deux partenaires qui aussi ont apporté un soutien. Il s'agit de Dexia, qui est notre mécène pour le festival et qui a un soutien important, qui a conservé son soutien malgré l'annulation de l'année dernière, alors qu'ils avaient déjà versé et maintenu leur partenariat l'année dernière. Il y a également la DALI, la SACD, Arte, la FNAC, Londa qui nous aide sur les surtitrages, le fameux surtitrage de notre spectacle que vous allez voir. Et aussi la Farge Granula pour la carrière en banque, le Crédit Coopératif, la Poste. Et enfin, des partenaires qui vont nous permettre de partager ensemble un verre, qui sont Vaqueras, Interrhône et les Compagnons du Côte-du-Rhône. Qu'ils en soient ici tous remerciés. Enfin, je voulais aussi vous dire, parce que quand on parle du public et du festival, il faut aussi donner les dates du festival OFF qui se dérouleront donc du 8 au 31 juillet à Avignon.
Non. Encore un dernier mot avant de vous ruer sur le buffet qui est derrière vous. Effectivement, pour le moment, nous sommes très heureux que le pacte de confiance avec le public a l'air de tenir et a l'air d'être fort au moment où nous proposons un projet ouvert sur la découverte. Nous avons vendu 71 000 billets déjà, soit 56%, ce qui est tout à fait normal au moment d'une ouverture du festival. Ça a effectivement démarré un peu plus doucement que d'habitude, mais que petit à petit on rattrape notre retard et que tous les signes sont plutôt positifs par rapport à la présence du public au festival cette année. Une édition du Festival d'Avignon ouverte. Merci.